Qu'est-ce que c'était ?
Les jeux de la roulotte.
Comme tous les mercredis, je reçois Ghislain de la ludothèque La Roulotte. Bonjour Ghislain.
Bonjour à tous.
Alors j'espère que tu vas bien aujourd'hui, ça va ?
Ouais, nickel, ça va.
Tu es venu nous présenter, comme chaque mercredi, deux jeux de société avec quand même une petite originalité aujourd'hui, c'est que tu vas nous présenter un jeu de société, mais aussi un livre-jeu. On va peut-être laisser le livre-jeu pour la fin et le suspense pour la fin. On commence avec Splendor.
Ouais, exactement. Donc Splendor, c'est un jeu qui est sorti en 2014. Alors moi, c'est un petit moment de nostalgie parce que je me souviens de la sortie de ce jeu comme si c'était hier en fait. Je venais de prendre mes fonctions à la roulotte, mais surtout, c'est le moment où je commençais juste à découvrir le monde de l'édition. Et c'est lors d'un rendez-vous professionnel avec l'éditeur du jeu que nous avions pu le découvrir. Et ce fut véritablement une vraie claque, quoi. On venait de découvrir à l'époque un jeu qui encore aujourd'hui nous semble indispensable dans toute bonne ludothèque. Bref, en gros, je vais vous présenter un classique.
Un classique qui date de 2014, mais qui est tout récent dans nos cœurs et qui a eu pas mal de succès aussi, j'imagine.
Ah ouais, pas mal de succès et surtout pas mal de ruptures de stock, hein, donc c'est lié.
Bien oui, victime de son succès. Un jeu que tu adresserais pour quel public ? Là, on est plutôt sur adultes, jeunes enfants ?
Concrètement, on peut commencer à jouer à Splendor à partir de 8-10 ans, sans souci. Et il se joue entre 2 et 4 joueurs. Alors, je tiens à le dire tout de suite, il fait partie de ces très rares jeux qui peuvent aussi bien se jouer à 2 que à 4.
Donc c'est par deux à chaque fois par paire ?
Alors 2, 3 ou 4. Mais en fait, vous allez voir, la mécanique, elle est tellement fluide que ça marche aussi bien à 2, 3 ou 4 joueurs.
Bon, ça va, on peut jouer si on est 3 quand même à ce jeu.
Ouais.
Concernant le thème, alors moi j'ai une petite image sous les yeux de ce jeu, en tout cas le visuel de la boîte. On voit, je dirais que c'est une sorte de magicien. Est-ce que le thème va tourner autour de la magie ou pas ?
Alors ça
ne
va pas tourner autour de la magie parce que sur la boîte, je pense que tu dois avoir une espèce de diamant. Un petit joyau.
C'est possible, je l'ai en noir et blanc.
Et en fait, on va jouer tout simplement des joailliers, tout simplement, plutôt des riches marchands de la Renaissance. Et on souhaite du coup investir à la fois dans les mines, dans les moyens de transport et dans des artisans pour pouvoir développer notre empire de joaillerie.
Donc c'est un peu comme un jeu sur internet où on aurait tous les bateaux pour aller chercher les diamants, ceux qui creusent, ceux qui ont les magasins et en même temps les artisans, mais en version jeu de société.
Sauf que là, côté matériel, en fait, on va avoir des cartes qui vont être étalées sur la table. Donc ça, vont représenter généralement des mines. Et on va aussi avoir, bien sûr, des jetons qui représentent les ressources qu'on va acquérir en courte partie. Et c'est vraiment ces petits jetons-là qui vont apporter un vrai plaisir à la sensation de jeu. Parce qu'en fait, l'éditeur, il a fait le pari assez novateur de se dire « Allez, on va éviter de mettre des jetons en plastique ou des jetons en carton. »
Il n'a pas mis des vrais diamants quand même.
Ah non, il n'a pas mis des vrais diamants. Mais par contre, il a mis des jetons qui sont lourds. En fait, ce sont des jetons de poker, tout simplement, avec l'image de la pierre par-dessus. Et alors franchement, on peut trouver ça hyper cheap. Mais en fait, quand on joue, on a une sensation de jeu, on joue avec les ressources que l'on a gagnées, on s'amuse comme si on avait des jetons de poker en main, donc on les garde, on les manipule, on fait des figures avec, bref, enfin, cette dimension qui est liée au toucher, elle est vraiment super sympa.
Ouais, donc il y a vraiment tout ce côté matériel à travers le diamant. Et comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on joue ?
Alors, déjà, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Alors, côté règles, c'est plutôt simple, donc c'est adapté à partir de 8-10 ans, comme je vous le disais. En fait, à votre tour, on va disposer que d'une action à faire, parmi 3. C'est soit on prend des jetons, soit on réserve une carte qui est étalée autour de la table, soit on achète une carte. Voilà.
Donc, 3 actions possibles.
Ouais, c'est ça. Et c'est bien là qu'on va voir l'intérêt du jeu parce que, en fait, les cartes qui sont au milieu de la table, elles vont coûter des ressources. Donc, les ressources, je vous rappelle, ces petits jetons de poker qu'on va pouvoir récupérer. Pour une action, je peux dire à mon tour, je vais prendre des ressources, c'est tout. Et à une autre action, plus tard, je pourrais me dire, j'ai assez de ressources pour acheter une carte. Parce que chaque carte a un coût, bien sûr, comme dans d'autres jeux que j'avais pu vous expliquer. Et une fois qu'on a acheté cette carte, on va la garder devant nous. Et en fait, à chaque tour, cette carte, elle va nous donner une ressource gratuite. Donc en fait, plus on va jouer et plus on va avoir de ressources gratuites parce que plus on va acheter de cartes. Et on est encore ici sur cette fameuse mécanique d'engine building que je vous avais chroniqué le mois dernier avec Everdell. Donc c'est un jeu où on commence très lentement, mais ensuite tout s'accélère très vite. Et là, les erreurs sont vraiment à éviter parce qu'on peut vite regretter nos choix tactiques. Et le petit sel final du jeu aussi, ça réside dans sa fin de partie. Parce qu'en fait, dès qu'un joueur il obtient 15 points de victoire, parce qu'il y a des points de victoire qui peuvent être notés sur des cartes, eh bien, on termine le tour et ça s'arrête. Et du coup, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas parce que c'est moi qui ai déclenché la fin de partie que c'est moi qui vais gagner. Parce qu'il y a quelqu'un au dernier tour, il va peut-être pouvoir me rattraper et du coup, je vais me faire bien avoir. Donc, c'est un jeu qui est plutôt hyper tendu et qui reste quand même très, très accessible avec des règles qui sont simples. Alors, comme je dis, c'est la phrase bateau, mais c'est un jeu simple, mais qui n'est pas du tout simpliste.
Oui, c'est sûr, il y a quand même pas mal de petits détails dans ce jeu qui s'appelle Splendor, prononcé à la française, ou Splendor, prononcé presque à l'anglaise. Concernant le jeu, donc tu disais la fin de partie, c'est pas forcément parce qu'on a provoqué la fin de partie que c'est nous qui allons gagner.
Exactement.
Ça veut dire que si on provoque la fin de partie, il reste encore un tour ?
Ben en fait, lorsqu'on provoque la fin de partie, alors on finit le tour de jeu. Donc s'il reste 3 joueurs après moi à jouer, ben eux, ils peuvent passer de 14 points de victoire à 17 points de victoire et du coup me gagner.
D'accord, donc ça c'est un jeu qui s'appelle Splendor, un jeu plutôt rapide côté rythme.
Oh, franchement, en 30 minutes, c'est plié.
30 minutes pour Splendor, voilà. Public qui peut très bien être familial aussi, ou entre amis à partir de 8-10 ans.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et tu as un autre jeu à nous présenter ce matin, c'est un jeu qui lui s'adresse plus aux petits et sous une forme assez particulière puisque plus qu'un jeu, c'est un livre-jeu.
J'avais pu vous proposer déjà des casse-têtes la dernière fois, mais là j'avais envie de vous parler un petit peu des livres. Alors le livre et les jeux, c'est deux mots qui vont sans doute résonner dans les oreilles des auditeurs, qui sont habitués aux livres dont vous êtes le héros notamment. Parce que dans les années 80, mais aussi 90, on en trouvait énormément dans les bibliothèques personnelles. C'est ces jeux qui vous racontaient une histoire, tout en rendant le lecteur, en gros, acteur de ses choix.
Par exemple, pour la suite de l'histoire, on va à la page 43 si on veut avoir un cheval, ou alors on va à la page 5 si on ne veut pas de cheval.
Exactement, c'était exactement sous cette forme-là.
J'ai dû en avoir un seul dans ma vie.
Et bien aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter cela, mais adapté pour les plus jeunes. Donc, c'est la gamme Ma Première Aventure. Alors, c'est adapté à partir de 4-5 ans. Alors, cet âge indique le fait que les parents vont quand même lire l'histoire. Hein. Mais ce sera clairement aux enfants de prendre les décisions sur la suite de l'histoire.
Et pourquoi est-ce qu'on a le côté jeu concernant ce livre ? Est-ce que c'est juste le format qui veut que ce soit un livre-jeu ? Ou alors on a vraiment, une sorte... C'est juste au niveau de l'aventure, en fait ?
Au niveau de l'aventure, le fait que tu aies un choix, que tu aies des objets à récupérer pendant la partie, on est vraiment dans une dimension très ludique, avec un début d'histoire, un milieu où tu es acteur, vraiment, tu prends tes décisions, et une fin où tu regardes ton score, en fait.
D'accord, oui, donc là, il y a vraiment le côté jeu sur ce livre. Le mien était peut-être juste un livre un peu acteur. Et de quoi parlent alors mes premières aventures ?
Alors, en fait, il y a différents thèmes. Hein. Tu vas avoir un thème sur les chevaliers qui sont en quête d'un dragon. Tu as un thème sur les fonds marins et la découverte de l'Atlantide. Tu as un thème plus spatial où on va embarquer dans une fusée. Enfin, il y a 5 livres, là, pour l'instant, qui sont sortis. Tous les 6 mois, ils en sortent un et ça fonctionne très, très bien. Et pour le principe, c'est assez simple, hein, parce qu'en début de partie, donc, l'enfant il va choisir un personnage parmi 3 ou 4. Et ensuite, le parent lira, ou lui-même, il lira le début de l'histoire. Et puis, il y a des choix qui vont apparaître, parce que les pages suivantes, en fait, elles sont séparées en 3 parties, ou plutôt 3 volets. C'est-à-dire que si on choisit le volet du haut, on suivra un chemin. Si on prend le volet du milieu, ce sera un chemin différent. Puis, pareil, pour le troisième, ce sera un chemin encore différent. Bref, il va falloir faire des choix judicieux, puisque le but, comme je vous le disais, c'est de réussir à accomplir une quête, en ayant le plus souvent réussi à récupérer un bon nombre d'objets. Et en fin de partie, on regardera ce que l'on a récolté durant l'aventure et on saura ou pas si on a plus ou moins bien réussi, puisqu'il y a un système d'échelle de score à la fin.
Donc il y a quand même tout ce côté jeu autour du livre avec différents scores et chaque lecture est aussi une manière de jouer différente et des décisions différentes.
Ouais, c'est ça. Alors bon, après, on ne pourra pas non plus s'amuser à la faire 40 fois, hein, l'aventure. Hein. Généralement, on la lira 9-10 fois, mais c'est un livre qu'on pourra refaire plus tard. Qu'on pourra prêter aux copains, donc voilà. Et je trouve que c'est hyper malin parce que ça invite les enfants à découvrir à la fois le jeu mais aussi la lecture ou à partager tout simplement un super moment de jeu et de lecture avec les parents.
Ouais, c'est sûr. Il y a tout ce côté en fait partage avec les parents et en même temps de l'apprentissage de la lecture parce que au début on va jouer avec les parents, mais dès qu'on va commencer à savoir lire, on va peut-être faire nos propres histoires et notre propre jeu tout seul. Donc ça, c'est un livre ou plutôt différents livres, différentes aventures qui s'appelle Ma première aventure. 5 tomes sont sortis, donc ça fait à peu près 2 ans et demi que ça existe.
Ouais, alors si peut-être on... même 3 ans, là tu me poses une colle. Ouais.
Deux, 3 ans pour ces 5 tomes au total, Ma première aventure, et plus précédemment tu as aussi présenté Splendor,
ouais,
qui lui est plus un jeu de plateau avec des diamants. Merci beaucoup Ghislain.
Eh bien merci à toi.